time. Hand them inches and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mess that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my life, not for sale. Try desert air pump through my hair. As we blow through the square, we don't even care. Dirt roads and bare feet. Tied to memories so sweet. Mesmerized men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides and fog takes over, I call it African November. Don't wait for me, summer. Don't wait for me. Don't wait for me, summer. No, don't wait for me. My strings propagate through space and time. Here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mess that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my life, not for sale.
C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là. Faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
C'est nous.
Donc, salut.
Vous êtes bien sur Radio Canu, Radio Canu la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi soir. Alors, aujourd'hui, on va commencer à l'international, donc par un point sur le Brésil et la recrudescence des attaques des pro-Bolsonaro. On enchaînera ensuite du côté du Burkina Faso, où la France a une nouvelle fois fait des frappes aériennes. On ira voir du côté d'un joueur turc accusé d'agression sexuelle. Et on finira le point international sur le couvre-feu ethnique pour les supérettes italiennes. Ensuite, au national, on ira à nouveau du côté de la grève de l'hôtel Hayat qui se poursuit malgré la répression, donc à Paris. On enchaînera sur Marseille et ce qui s'est passé à la Plaine. Et on finira ce point national sur le verdict tardif et clément pour un policier qui a éborgné deux personnes. Au local, on enchaînera donc avec un appel à rassemblement de soutien pour un facteur qui est menacé de licenciement après une attaque raciste des policiers municipaux. On passera par une agression homophobe donc sur Lyon, un policier poursuivi en interne. On ira voir du côté des FAF qui se réveillent, qui se sentent pousser des ailes à Croix-Rousse. Et on terminera rapidement avec, donc pour le local, un point sur le collège Maurice Sèvres et quels sont les besoins. Et on finira donc par un dossier, on l'espère, en tout cas avec une interview téléphonique sur ce qu'il se passe à Clavière, ou ce qui s'est passé ces derniers jours à Clavière. Alors, on commence donc tout ça par l'international, et on commence par le Brésil. Alors, au Brésil, que se passe-t-il ? Vous le savez, on l'avait dit la semaine dernière, Bolsonaro, qui est le candidat de l'extrême droite aux élections présidentielles, qui a fait 46% au premier tour, qui est un candidat d'extrême droite et pas des moindres. Il revendique très clairement haut et fort sa misogynie, son homophobie, son racisme et son profond respect pour la dictature de la junte militaire des années 60 aux années 80. Et bien, depuis ce résultat du premier tour, au moins 70 agressions pouvant aller jusqu'au meurtre ont été recensées. Alors, exemple type de ces agressions. On a un des maîtres de capoeira les plus importants du pays qui était un militant pour la défense de la culture noire, donc Mayo di Catende, qui a été poignardé 12 fois et donc assassiné après avoir ouvertement critiqué le candidat Bolsonaro. On a ensuite comme autre exemple la sœur de Marielle Franco. Cette femme était une militante féministe noire qui a été tuée en mars dernier pour avoir dénoncé l'intervention militaire du gouvernement fédéral à Rio. Donc cette sœur, elle s'est fait agresser dans la rue par un groupe de militants pro-Bolsonaro alors qu'elle se rendait au travail avec sa fille de 2 ans. Toujours contre Marielle Franco, cette militante féministe, un député du parti d'extrême droite s'est même pris en photo après avoir détruit une plaque en hommage à la militante féministe. Encore un ou deux exemples, une femme de 19 ans, celui-là, c'est pas des moindres exemples, a été attaquée à coups de poing et coups de pied à cause des inscriptions sur son t-shirt, puis on l'a mutilée au canif en lui marquant une croix gammée sur le ventre.
des attaques comme ça, racistes, misogynes, homophobes, ou contre des prises de position publiques anti-Bolsonaro ou des prises de position trop de gauche, eh bien, il y en a eu des dizaines de témoignages sur les réseaux sociaux. Hein, ça a été répertorié, donc c'est particulièrement inquiétant. Évidemment, c'est bien sûr lié au résultat du premier tour et à la liberté, à la haine que Bolsonaro permet via ses discours hein, qu'il prononce et via sa potentielle d'ailleurs victoire au deuxième tour des élections présidentielles, puisqu'il a fait 46% au premier tour, je le rappelle, et qu'il y a de très très fortes chances qu'il gagne ces présidentielles.
Et oui, maintenant on passe du côté du Burkina Faso, puisque mercredi dernier, la France a mené une frappe aérienne dans le nord du pays. Alors c'est une attaque qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Barkhane. Pour rappel, l'opération Barkhane, elle a été lancée en 2014 à la suite des opérations Serval et Épervier. Alors, c'est des opérations prétendument antiterroristes au Sahel qui n'arrêtent pas de s'ajouter les unes aux autres depuis de nombreuses années et qui, comme par hasard, arrangent quand même vachement bien les intérêts des capitalistes français fort bien implantés dans cette région très riche en ressources naturelles et humaines. Pardon. Donc le hasard de la lutte contre le terrorisme fait quand même sacrément bien les choses partout dans le monde. Une nouvelle fois, l'armée française sauveuse de l'Afrique devant l'éternel vient donner son concours au G5 Sahel. Alors qu'est-ce que c'est le G5 Sahel ? C'est une coalition donc, qui réunit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. C'est un projet en fait sécuritaire qui a été créé en 2017 et dont la France est en réalité le maître d'œuvre. Prétendument pour restaurer la paix dans la région où se met la guerre. J'ai toujours pas bien compris avec ces histoires de jeter des bombes et de foutre des hommes armés un peu partout. La différence est ténue. Donc, une coalition qui est surtout bien utile pour garantir l'hégémonie française dans la région. Pour revenir un peu plus sur les intérêts français précisément au Burkina Faso, on peut citer de sympathiques groupes comme Bolloré, qu'on ne présente plus quand on parle de la France-Afrique, ou bien le groupe Castel, qui est un gros distributeur de boissons, ou Air France. En 2016, par exemple, une table ronde entre le Burkina et la Banque mondiale avait eu lieu à Paris et ramené 12,7 milliards d'euros de promesses d'investissement au Burkina Faso. Et oui, sauf que ces investissements colossaux n'ont aucun effet sur les conditions de vie des Burkinabés et le pillage des ressources se poursuit devant elles et eux. On se rappelle aussi l'intervention de la France pour exfiltrer Blaise Compaoré du Burkina en 2014 après 30 ans de dictature. Donc ce soutien sans faille de l'État français aux dirigeants africains qui s'accaparent toutes les richesses en maintenant des régimes totalitaires n'a fait bien sûr qu'exacerber les tensions dans la région et favoriser la montée du terrorisme islamiste dans tout le Sahel. Alors Macron avait choisi Ouagadougou pour s'adresser au continent africain. Alors le continent africain entendre les ex-colonies françaises en novembre 2017. Il s'était alors présenté en héros, exhortant les Burkinabés à acclamer les soldats français. Alors, comme ses prédécesseurs, il est bien un colon. Comme ses prédécesseurs, il prétend rompre avec la France-Afrique tout en faisant des coopérations économiques bilatérales une priorité. Mais personne n'est dupe, ni en France, ni en Afrique. Et voilà, on souhaite surtout mettre fin au colonialisme et à l'impérialisme et que ces attaques cessent, parce que c'est pas parce que la guerre n'est pas chez nous qu'on n'est pas un pays en guerre partout dans le monde.
On continue donc à l'international avec un joueur turc qui est accusé d'agression sexuelle.
Oui, c'est la mode chez les joueurs de foot en ce moment.
Il y en a aussi qui soutiennent l'extrême droite au pouvoir et il y en a qui agressent sexuellement.
D'accord, merci. C'est l'international turc Arda Turan risque 12 ans de prison selon le site Sport France TV, faux.fr, il y a à peu près une heure. Arda Turan aurait été inculpé ce lundi pour harcèlement sexuel, mais aussi pour détention illégale d'armes et blessures volontaires. L'ancien footballeur turc risque 12 ans de prison. Alors, 12 ans de prison plus 31 ans, j'ai calculé, c'est 43 ans peut-être. Lui, il finira sa carrière entre les mille, si toutefois il est jugé. En tout cas, pour l'instant, il pourrait encourir jusqu'à 12 ans de prison. L'ancien footballeur de FC Barcelone, l'équipe de Lionel Messi, s'est bâti avec un artiste célèbre au nom de Berkay Sahim, un chanteur populaire à la sortie d'une boîte de nuit à Istanbul. Arda Turan prêté à Istanbuliot, désolé, je vais arriver, aurait harcelé l'épouse de l'artiste, selon les médias locaux. Touran avait cassé le nez de Berkay Sahim lors de la bagarre entre les deux artistes, entre les deux stars. Selon Habertürk, un journal quotidien turc, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid aurait poursuivi le chanteur dans son lit, sur son lit de l'hôpital armé d'un pistolet pour qu'il lui tire dessus. Donc il faut dire que c'est une action aussi qu'on peut critiquer, qu'on peut juger aussi dangereux pour Deza, un joueur qui a vraiment fait a montré ses capacités dans des clubs vraiment référentiels quand on parle de football. Il faut dire aussi le chanteur quant à lui risque des ans de prison parce qu'il est inculpé pour insulte. Arda Turan est l'un des meilleurs joueurs turcs, le plus célèbre, le préféré des Turcs sur le terrain de football. La question, est-ce qu'il aurait le soutien du président Recep Tayyip Erdogan? Mais malheureusement, il semblerait que ce joueur aurait une mauvaise réputation, que ce soit sur le terrain comme en dehors du stade. Puisqu'on se rappelle, il a été suspendu pour 16 matchs, j'ai dit bien 16 matchs, par les autorités du football turc après avoir insulté et bousculé un arbitre lors d'un match à domicile. Le milieu offensif turc est prêté à Başakşehir la saison dernière après un passage au FC Barcelone où il a eu des difficultés à s'imposer après une belle époque à Atlético.
Et on enchaîne donc avec le couvre-feu ethnique pour les supérettes italiennes.
Oui, parce qu'en Italie, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a annoncé son intention d'amender un décret sur la sécurité afin d'interdire aux magasins ethniques d'ouvrir après 21h. Alors, magasin ethnique, c'est le terme qui choisit lui-même.
Je suis toujours étonnée de voir que des gens captent dans le studio, parce que moi, j'ai jamais réussi à capter.
Ah non, désolé.
Magasin ethnique, c'est le terme qu'il choisit lui-même pour parler en fait des épiceries de nuit. En France, nous, on dit souvent qu'on va chez l'arabe du coin. Apparemment, en Italie, c'est plus souvent des personnes d'origine indienne ou bengali. Et d'après Salvini, ces épiceries de nuit seraient des repères d'ivrognes et de trafiquants de drogue. Et cette mesure ne serait pas une initiative contre les magasins étrangers. Ce qui ne l'empêche pas de préciser qu'il s'agit de lutter contre les abus de certaines de ces épiceries, presque toutes gérées par des étrangers. Le presque toutes gérées par des étrangers, c'est bien lui qui le précise, juste après avoir assuré que ce n'était pas une initiative contre les magasins étrangers. Alors déjà, ceux qu'ils appellent étrangers sont sûrement en majorité italiens, et juste pas assez blancs pour lui, mais à la limite, peu importe. La mesure et les termes qu'il utilise sont dégueulasses, peu importe la nationalité des personnes visées. Par contre, il serait difficile de nous faire croire que cette décision n'a pas pour but de stigmatiser et discriminer une partie de la population, quand on sait tout ce qu'il se passe déjà en Italie. C'est-à-dire le refus d'accueillir les migrants repêchés en mer par les gardes-côtes italiens cet été, ou le fait de demander aux familles migrantes de déclarer leur possession dans leur pays d'origine, sous peine de priver leurs enfants du ramassage scolaire et de leur appliquer automatiquement le tarif le plus élevé à la cantine. Ou encore la multiplication des agressions racistes et souvent mortelles pour les victimes, agressions auxquelles Matteo Salvini répond « Il y aurait du racisme en Italie, ne disons pas de bêtises ». Alors, tabasser une femme noire ou prendre en chasse une personne d'origine marocaine en l'accusant de vol sans aucune autre raison que son apparence, eh ben, ça ne serait pas du racisme.
Bravo à lui, hein.
Alors, on se fait une petite pause musicale, donc, avec un morceau qui s'appelle Thunder Six, je sais pas si je le dis bien, et Miss Eves. Alors...
Thank you. thighs juicy. Don't be jelly when my thighs shake.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Canu, le Canu Info du lundi, donc Radio Canu, la plus rebelle des radios, bien sûr. Et vous venez d'écouter donc Thunder Sight, je le dis mieux qu'avant. Et donc, c'est du rap contre
féministe.
La, féministe contre la grossophobie.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et on enchaîne avec donc le national et un point à nouveau sur l'hôtel Hayat.
Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Le personnel de l'hôtel Hayat à Paris est en grève depuis le 25 septembre. Donc les femmes de chambre... Ouh, il y a de l'écho dans le studio. Les femmes de chambre donc, externalisées, c'est-à-dire qui sont en sous-traitance, ainsi qu'un certain nombre de salariés internalisés, tiennent depuis plus de deux semaines une grève dure, avec piquets de grève chaque jour. Les grévistes dénoncent la surcharge de travail, le manque de matériel, les tâches absolument éreintantes et surtout sans aucune contrepartie. Alors des conditions de travail dont l'hôtel se lave les mains puisque, comme je le disais, les femmes de chambre sont sous-traitées, sont embauchées par une entreprise extérieure à l'hôtel, ce qui les empêche de revendiquer quoi que ce soit à ceux qui sont en réalité leur véritable employeur et d'obtenir les mêmes droits que les autres salariés de l'hôtel. Les grévistes réclament donc l'augmentation des salaires, le remboursement des frais de transport, la mise en place de représentants ou encore l'ouverture d'un compte de pénibilité pour chaque salarié. Et on sait à quel point le travail de femme de chambre particulièrement est très éprouvant physiquement. Alors visiblement, ce genre de démonstration, puisque comme je le disais, hein, les grévistes tiennent un piquet de grève chaque jour et ils ont fait savoir qu'ils ne céderaient pas jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Visiblement, effectivement, ce genre de démonstration dans l'une des rues les plus chics de Paris, alors la rue de la Paix pour les inconditionnels du Monopoly, n'est pas du goût de la direction qui utilise de tout un tas d'intimidations pour faire cesser cette grève. Alors, par exemple, vendredi dernier, la direction a fait appel à ses gros bras et deux grévistes ont été agressés par les agents de sécurité de l'hôtel. L'un des camarades a été gravement blessé, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et depuis vendredi, les flics essayent quasiment chaque jour d'empêcher la tenue du piquet de grève devant l'hôtel. Et oui, parce que ça fait mauvais genre. Aujourd'hui encore, les grévistes ont été chassés de leur lieu de travail. Alors, depuis quelques années, ces grèves se multiplient. Elles sont souvent victorieuses grâce à une détermination dont peu de secteurs peuvent se prévaloir. C'est des grèves très dures, qui durent très longtemps et souvent avec un taux de grévistes de 100%. On souhaite énormément de courage aux grévistes. On invite surtout tous les auditrices et auditeurs à faire un don sur la caisse de soutien aux grévistes que vous pouvez retrouver sur le pot commun. Elle s'appelle Soutien aux grévistes de l'hôtel Parc Hayat Vendôme. Vous pouvez suivre un peu leur actualité sur Paris Lutte ou sur la page Facebook de la CGT HPE. Je répète, la CGT HPE, donc qui est une section CGT qui s'occupe particulièrement des hôtels de luxe. Voilà, donc on souhaite bon courage aux grévistes de l'hôtel Hayat. On espère qu'ils obtiendront satisfaction de leurs revendications et qu'elles pourront tenir leur piquet de grève sereinement dans les jours à venir sans se faire déloger par les flics.
On enchaîne avec les événements tout récents de Marseille.
Alors oui, Marseille, oula, il n'y a pas de son.
On t'entend pas très bien, je crois.
Vous m'entendez ? Non.
Et oui, mais parce qu'on est en duplex de Marseille, hein, c'est pour ça qu'on n'entend pas très bien le camarade.
Le son en met un peu de temps
là,
à venir.
Là, c'est mieux.
Donc voilà. Alors, tout simplement pour vous faire, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est que... En ce moment, Marseille, en fait, notamment le quartier de la Plaine, est en feu régulier avec des conflits tous les jours entre les forces de l'ordre et les habitants du quartier. Donc, on va essayer de revenir un peu pour voir le pourquoi du comment. Et donc, voilà, le quartier de la Plaine est donc un quartier, pour ceux qui voient un peu de la ville de la géographie marseillaise, situé juste au-dessus du vieux port et qui, en fait, est constitué notamment de plusieurs places, dont une très grande place qui est la place Jean Jaurès, qui est appelée le quartier de la Plaine. Qui a un lieu donc extrêmement vivant, extrêmement populaire aussi de la ville et où il se tient au moins une fois par semaine un très très grand marché avec plus de 300 forains qui se réunissent sur place. Donc Marseille, en fait, c'est une ville qui est historiquement extrêmement populaire, notamment dans les quartiers nord et dans les quartiers du centre-ville, car la plupart de la bourgeoisie est allée se cacher dans les terres, dans le grand ghetto qui est Aix-en-Provence. Donc ce qui ne plaît évidemment pas aux édiles de la troisième ville de France qui cherche, comme comme tout le monde, comme un grand nombre d'entre eux, a multiplié les projets pour se faire de l'argent sur le dos des habitants et ont décidé d'embourgeoiser, de gentrifier, oui, la ville de Marseille et de remettre le centre-ville aux mains des riches et des puissants. Donc après, il y a eu un certain nombre de projets qui sont passés à travers autour du Vieux-Port, sur la rue de la République, qui est une grande rue qui est aussi présente là-bas, qui était extrêmement pauvre autrefois, qui a été entièrement rachetée, rénovée, revendue, enfin c'est un bazar sans nom, en attendant, qui a été vraiment entièrement rénovée et qui, avec une forte augmentation du niveau de vie et du prix de l'immobilier. On a eu la même chose sur le Vieux-Port et des pseudo-intérêts. Ils ont utilisé en fait l'art, la Marseille capitale de la culture, pour installer des œuvres, de pseudo-œuvres d'art à droite à gauche. Ils ont installé le musée du Mucem, qui est d'un point de vue muséographique une honte absolue, et d'un point de vue esthétique aussi qui est extrêmement critiquable. Et il y a pas mal de projets donc, comme ça, qui sont attaqués toute la basse ville, et maintenant les constructeurs remontent petit à petit et s'attaquent donc à ce quartier de la Plaine qui fait partie d'un des derniers bastions qui restait encore très populaire dans le centre-ville. Donc, je prends ma deuxième feuille. Et ce... Et donc, ce quartier, donc le projet en quelques mots, c'est en fait sur une grande place où il y a pas mal de bars autour, de terrasses et d'activités, des boules, des endroits pour faire plein de choses et qui permet une véritable vie de quartier. L'idée, c'est de passer plus de 4 ans à faire entièrement des travaux pour un coût estimé à 20 millions d'euros qu'on sait très bien, comme dans tous ces projets, qui va être fortement dépassé. Alors qu'en même temps, la ville de Marseille demande beaucoup de fonds pour rénover ne serait-ce que ses écoles qui tombent en ruine. Et ils vont mettre 20 millions d'euros pour créer des nouvelles routes, enlever tous les arbres pour en replanter quasiment le même nombre et pour aussi réduire fortement la taille de ce marché en demandant aux forains d'aller se poser un peu partout sur les autres places. Donc évidemment, ce projet s'est fait absolument pas en concertation avec les habitants qui n'ont à aucun moment été consultés sinon dans des consultations bidons où les projets étaient déjà finis, on leur présentait simplement ce qui allait se passer. Et ce qui change par contre, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres villes de France, c'est que habitants et forains se sont mobilisés parce qu'en fait ils n'étaient juste pas d'accord. Et sauf que eux, en fait ils le montrent plutôt bien, ce qui fait que depuis, il y a eu quand même pendant quelques jours, les forains notamment ont utilisé leurs véhicules pour faire des grandes manifestations, faire des blocages sur le périph et sur l'autoroute. Et que là, plus récemment, les travaux de la Soleam, qui est donc la structure qui a été mise en place pour lancer ces travaux, a essayé de venir sur le terrain pour lancer tout ça, et notamment en installant des flots en béton. Et depuis, tous les jours, il y a entre 100 et 300 personnes qui sont là pour les accueillir et essayer de les repousser, et qui s'affrontent avec les forces de l'ordre. Donc on imagine passer 4 ans de travaux sous la protection policière, ça va être une ambiance fort sympathique dans le quartier, et qui va être absolument totalement une catastrophe. Donc on peut qu'espérer que la mairie et puis les autorités publiques se rendent compte que clairement ces travaux n'auront pas lieu et qu'il faudrait, comme la plupart des gens le réclament sur place, qu'il y ait une véritable concertation qui soit mise en place, un moratoire total de tout ça, et que l'ensemble
face au scandale muséographique, un beau moratoire
un bon moratoire sur ce projet pour que les habitants soient enfin concernés, et que parce que clairement en fait il y a le projet qui est derrière, comme beaucoup, c'est une explosion des loyers et une disparition totale de la population présente, remplacée par une population qui aurait beaucoup plus de moyens de payer beaucoup plus d'impôts. Donc voilà, donc on souhaite un bon courage à tous les camarades marseillais, on enjoint tous les camarades qui sont dans un rayon raisonnable de ne pas hésiter à aller descendre, prendre les derniers rayons de soleil là-bas pour profiter des feux d'artifice qui ont lieu tous les jours sur la place. Et puis voilà, et bon courage, et puis on espère que vous vous vaincrez rapidement.
Et on enchaîne donc avec un verdict fort tardif et fort clément, une fois de plus, hein, pour un policier qui a... Mais borné deux personnes.
Oui, fort tardif, puisque là, on est presque 10 ans après les faits. Le verdict vient seulement de tomber pour un policier qui, en 2009, a éborgné deux personnes avec un flashball. Le policier n'était pas habilité à utiliser cette arme et il intervenait avec deux de ses petits camarades pour réprimander des habitants de Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, qui faisaient un barbecue en pleine nuit. Ce que les personnes qui prenaient leur repas n'ont pas apprécié, et il y a eu des échanges de projectiles divers et de tirs de flashball. Échanges qui ont donc fini avec deux blessés, pas du côté de la police, hein, mais bien des habitants du quartier. Le policier a immédiatement été considéré comme en position de légitime défense. Pourtant, un seul des deux blessés a été poursuivi pour violence contre les policiers et il a même été relaxé. Vu qu'on a mis plus de 9 ans pour avoir le verdict, je vais vous le donner. Le policier a écopé de 3 mois de prison avec sursis. Ce qui est déjà pas cher payé pour avoir éborgné 2 personnes, mais en plus, il a obtenu la non-inscription de la condamnation dans son casier judiciaire afin de pouvoir continuer à exercer son travail. Ce qui nous rassure tous, évidemment. Et voilà, c'est qu'une histoire de plus qui s'ajoute à la longue liste des histoires où gendarmes et policiers agissent avec impunité et bénéficient énormément de traitements de faveur.
Alors, voilà, c'est la fin du National, mais pas tout à fait, car vous aussi, vous, en ce moment, vous attendez quelque chose, non ?
Ben non, non, rien.
Non, rien ? Faut que la personne qui a voulu faire une blague l'assume. Alors, nous t'attendons.
Je ne sais pas de qui tu parles. Néanmoins, c'est vrai qu'on est un peu triste que le gouvernement n'ait toujours pas été annoncé, parce qu'on aurait bien aimé faire un sujet là-dessus. Du coup, on va écouter Johnny Hallyday, Je t'attends.
Je t'attends, le remaniement.
Et on attend qui ?
Le remaniement. Et oui, donc on attend toujours le remaniement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience.
Mais sympa, on ne vous l'a pas mis en entier. Hein.
Non, ouais, on est cool. Et du coup, bah, on passe tout de suite à l'actualité locale puisqu'il n'y a pas d'actualité nationale sur le remaniement. Et on continue sur les violences policières.
Toujours, alors oui, demain à 14h, il va y avoir un rassemblement de soutien devant la Grande Poste à un postier menacé de licenciement. Alors, quelques explications. Le 21 juin dernier, ce postier qui travaille depuis 11 ans à la Poste a terminé sa livraison du bureau de poste des Terreaux et s'est garé, comme il l'avait déjà fait, comme le font ses collègues, comme le font souvent ses collègues, sur le terre-plein en face de la Poste des Terreaux. Et c'est là que des municipaux sont intervenus et l'ont molesté, plaqué contre sa camionnette avant de l'interpeller. Et ils ont pour ça eu besoin de d'être à 10 hein, pour l'interpeller. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ce postier a la peau noire. Alors, des témoins ont pu filmer cette agression. Ça a même provoqué l'intervention, dites-vous bien, de Michel Noir, l'ancien maire de Lyon. Et l'arrêt, mais néanmoins sans intervention, d'un certain David Kimmelfeld, l'actuel président de la métropole. Alors, les représentants de la Poste, sur la base des accusations du policier municipal et de ses collègues, qui lui, par contre, et eux, hein, ont reçu un soutien sans faille de leur hiérarchie, eh bien, ces représentants de la Poste ont décidé d'engager une procédure de licenciement pour refus d'obtempérer, vis-à-vis donc de ce postier. Il est qui plus est convoqué le 15 novembre au tribunal correctionnel. Alors d'un côté on a la police municipale qui est elle aussi raciste. Il y a pas le monopole du racisme, ce n'est pas seulement les BAQEUS, les CRS, il y a bien sûr les municipaux. Et puis on a la Poste de l'autre côté qui soutient complètement l'action raciste de la police municipale. Il faudrait peut-être rappeler que depuis le passage en société anonyme de la Poste, eh bien, ça aboutit à des suppressions de postes très massives, en cascade, une gestion managériale des salariés qui subissent des conditions de travail de plus en plus dures, avec beaucoup plus de travail pour moins de personnel. Et donc sont obligés de plus en plus de se garer à l'arrache, hein, comme ça a été fait cette fois-là. Et cette fois-là n'était pas la seule, mais par contre, c'est bien lui qui a subi les violences policières et qui était visiblement raciste. On continue donc sur le local avec une autre agression.
Oui, tout à fait. Bah, toujours aussi avec une mise en cause des keufs. Puisque donc, dimanche 7 octobre, un homme de 25 ans s'est fait agresser près de la place Bellecour par une trentaine d'hommes de 25 ans aussi. Il a donc appelé la police à la suite de son agression. L'opérateur qu'il a eu au bout du fil lui a demandé d'aller vérifier dans la bouche de métro où étaient partis ses agresseurs, si ceux-ci étaient toujours présents. Donc, bien sûr, la victime a refusé de peur de croiser de nouveau ses agresseurs. Le policier lui a donc expliqué qu'il ne se déplaçait pas parce qu'il n'était pas sûr que les agresseurs soient encore là. Alors, on pense bien que c'est effectivement le motif homophobe de l'agression qui est à l'origine de la non-intervention de la police. C'est pas la première fois que la police prouve son homophobie. Alors, il y a une enquête interne qui a été diligentée, pardon. On n'en attend pas grand-chose, mais on suivra l'affaire avec attention. En attendant, on espère que la victime se remet bien de cette agression absolument dégueulasse.
Alors, puisqu'on parle d'agression homophobe, eh ben, on va aller du côté de nos faves préférées, c'est-à-dire ceux du bastion social. Hein. Pour rappel, le bastion social, hein, c'est son ancêtre, c'est le GUD, hein, le groupe Union Défense. Hein, donc, ils sont favorables à une Europe blanche. Hein, ils n'hésitent pas à agresser des gens parce qu'ils sont effectivement homosexuels, parce qu'ils considèrent qu'ils ont la peau un peu trop bronzée ou parce qu'ils sont un peu trop gauchistes à leur goût. Eh bien, ces derniers ont décidé, donc, vendredi soir, le bastion social donc d'occuper la place Colbert, la place Colbert donc qui se situe dans les pentes de la Croix-Rousse, sachant que donc leur fief est plutôt le 5e arrondissement et beaucoup moins les pentes de la Croix-Rousse ou le plateau. Donc il y a eu le lendemain un rassemblement, un contre-rassemblement hein, pour leur signifier qu'ils n'étaient pas les bienvenus à Croix-Rousse. Donc faut pas pour autant s'en inquiéter. Malgré tout, sur leur communication, hein, le bastion social, ils montrent une part d'agressivité qui est inquiétante. Donc leur laissons pas le terrain, leur laissons pas la place et continuons à bloquer et à essayer d'être présents hein, là où ils se rassemblent.
Oui, d'autant qu'ils ont un peu tourné, rodé autour du collège Maurice Sève vendredi soir, justement. Au moment où ils sont allés, ou jeudi soir, je ne sais plus. Non, vendredi soir.
Vendredi soir.
Donc voilà, ils essayent de menacer un peu les lieux dans lesquels ils identifient des militants ou des personnes racisées. En l'occurrence, le collège Maurice Sève, qui, on en a déjà parlé la semaine dernière, qui accueille les mineurs isolés qui ne sont pas pris en charge par la métropole. Donc c'est un ancien collège qui est occupé depuis maintenant 2 semaines. Et du coup, malgré ces intimidations, notamment des FAF, mais aussi de la métropole, l'occupation se poursuit et se met en place de mieux en mieux. Alors, la semaine dernière, la métropole a envoyé des agents d'EDF pour couper l'électricité alors directement sur la route en face du collège, c'est-à-dire qu'ils ont essayé, qu'ils ont...
Ouais.
Pardon. Excusez-moi. oui, du coup, voilà, ils ont essayé de couper l'électricité directement en faisant des trous dans la route. Alors, on préfère pas savoir combien ça leur coûte de faire ce genre de choses. Kim Elfeld est définitivement prêt à de gros efforts financiers pour mettre des gens à la rue et les laisser dans les pires conditions possibles. Hein, on se rappelle qu'il avait quand même débloqué 1,8 million juste pour surveiller des bâtiments vides, alors même qu'il refuse de prendre en charge les mineurs dont il a l'obligation de prise en charge. Donc voilà, ce matin, les copains passaient en référé au tribunal administratif pour une expulsion rapide. L'argument de la métropole étant que le bâtiment est insalubre, hein, on invite chacune et chacun à se rendre sur les lieux pour constater par eux-mêmes que le bâtiment est tout à fait habitable. Il est en tout cas de toute façon beaucoup plus que la rue dans laquelle Kim Elfeld souhaite mettre ses mineurs isolés, qui, je le rappelle, doivent être pris en charge par la métropole. On le redira jamais assez. Pour ce qui est des besoins, donc là, pour le référé de ce matin, on aura la réponse mercredi ou jeudi. Il y aura visiblement un apéro qui sera organisé le soir même. Donc, restez attentifs sur Rébellion, notamment, pour avoir l'info. Donc, ça sera mercredi ou jeudi. Pour ce qui est des besoins, il n'y a plus trop besoin de dons de vêtements. Il y en a beaucoup, beaucoup là qui sont arrivés ces derniers jours. Donc, ils cherchent surtout du matos de plomberie, un peu d'élec, des disjoncteurs et de la bouffe, particulièrement du riz et du lait. Voilà, donc vous pouvez passer, c'est rue.
Là, c'est le collège Morisset, vous tapez sur Google et vous l'avez, c'est ça qui est bien.
Vous allez sur Rebellion, il y a un article dessus, il y a l'adresse aussi.
C'est rue Thévenet, voilà, sur le plateau, tout ça, tout ça.
Alors, on vous met une petite musique, histoire qu'on s'organise et qu'on puisse donc à notre tour avoir une conversation téléphonique, une interview en exclusivité pour ce Canu Info du lundi sur les événements de Clavière du côté de la frontière italienne.
Rebeller quand le système te la serre, t'emprisonne, veut te mettre la muselière. Désobéir quand cela devient nécessaire, contestataire devant la cerbère sanguinaire. Rester visible comme le kéfé de Yasser, ostensible pour exprimer notre colère. Ouvrir nos gueules, mobiliser nos frères. Va dire à nos censeurs qu'est impossible de nous faire taire.
Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains. Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord. Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains. Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord. Nos pères sur le terrain dans des ateliers d'écriture, où la langue de Molière se fait torturer par des petits durs. Méprisés par l'État, écrasés par les taux. Insoumis, on a choisi de les maîtriser par les mots. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire peu de choses. Des bouts de ficelle, une étincelle et ça explose. À la tronche de ceux qui tiennent les manettes, de paradis n'est-ce pas, de thunes plein la mallette.
Voter, franchement, y'a que des bouffons sur liste électorale. Leur problème c'est bien l'islam et non porte du voile intégral. Je peux pas suivre le troupeau et croire en leur campagne. C'est fou comme des écouteurs font avancer un âne. Plein d'indigènes de la répu qui squattent les arrêts de bus et qui se demandent chaque jour qui sera le prochain comme à la roulette russe. Voilà ce qu'on est, ce qu'on pense de cette France en quelques phrases. Et si je me plains, c'est que l'État a mis tous les miens dans la même phase.
Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains. Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord. Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains. Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord.
Résister pendant qu'il est encore temps. Refuser leurs menottes et leurs carcans. Refuser leurs règles, leurs commandements. Libre de nos mouvements, on reste indépendants. Occuper l'espace, au moins ceux qui nous restent. Mes belles qui surveillent nos moindres faits et gestes. Ils essayent de contrôler le moindre bouillonnement. Neutralisé, paralysé, le moindre dissident.
Marcher droit n'est pas forcément marcher dans les rangs. Je viens remuer la merde quand beaucoup marchent dedans. Je suis pas de leur guerre, je porterai pas leur uniforme. Je suis de ceux qui trouvent leur place que lorsque les gens dorment. Qu'ils remballent leur symbole, j'enfoncerai pas le clou de leur spectacle. Je préfère mourir comme quelqu'un de respectable sans subir l'oppression d'un système pyramidal. Mais je continue de vivre puisqu'on m'a mis hal.
Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord.
Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord.
Attendre donc autant dévier le destin. Faut des bons à prendre quand y'a plus un père pour guérir tes plaintes. Mon cas prélevé, tes empreintes ou tes impôts. Les infos pour qu'un innocent tombe et qu'un flic sauve sa peau. Plus rien de fécond, à ce heure la France est en peine. Mais nos proches préfèrent adopter des projets de loi visant à prendre aux pauvres ce qu'on aura plus à payer d'ici quelques mois. Un loyer, deux repas par jour de moins. On lâche rien, on reste fidèle au poste. Un stylo, un papier, mon texte, une riposte, une contre-attaque. Une contre-offensive à parler de plus. Contre leur loi répressive, c'est sur le terrain qu'on bricole avec ce qu'on a. Qu'on résiste comme on peut avec ce qu'on trouve ici bas. Des nôtres, ils ont fait des parias, des scélérats. Mais crois-moi, un jour ou l'autre, ça se paiera.
Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains. Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord.
Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord.
Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord.
Pas de paradin, on occupe le terrain. Sur nos calepins, toujours les mêmes refrains.
Insolents, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du lundi et on commence maintenant, si tout se passe bien techniquement, une interview téléphonique.
Est-ce que tu nous entends bien ?
Oula, j'entends pas très bien.
T'entends pas très bien, mais on était prévenus que tu nous entendrais mal, mais est-ce que tu nous entends quand même ? Allô ?
Ouais.
Ok.
Je vous entends très très loin.
Ouais, bah je crois qu'on ne va pas réussir à faire mieux. Est-ce que
okay, ça va?
Alors du coup, toi, tu étais sur place lors de l'expulsion de chez Jésus. Est-ce que tu veux bien commencer par nous dire un peu ce que c'était, le squat chez Jésus?
Eh ben, ouais, du coup, on est à Clavière aujourd'hui et les jours qui viennent de passer. Et voilà, le squat, le lieu occupé qui accueillait les personnes qui cherchaient à traverser la frontière donc à Clavière, entre Clavière et Montgenèvre, était accueilli dans ce lieu occupé pour pouvoir se reposer un peu, sachant qu'elles allaient se taper une grosse marche de plusieurs heures dans la montagne, sans rien à manger, sans rien à boire. Donc ce lieu occupé là a été expulsé après plusieurs mois d'ouverture, a été expulsé mercredi. Y a des gens qui ont décidé de rester sur place, hein, qui sont revenus le lendemain en montant voilà, quelques tentes, en apportant du café à manger. Et donc on occupait la place voilà, depuis jeudi. Et on a été expulsé ce matin de la place.
Et donc il y a eu une deuxième expulsion ce matin. Est-ce que lors l'une des deux expulsions, il y a eu des arrestations ?
Non, il y a eu des contrôles, mais il n'y a pas eu d'arrestation.
D'accord.
Il y a eu des contrôles. Enfin voilà, on peut pas jouer avec la police italienne, c'est pas possible. Soit on donne les papiers tout de suite, soit on est emmené au poste de toute façon, donc il n'y a pas le choix.
Ouais.
Avec ça.
D'accord. Et du coup maintenant. Ça en est où? Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il n'y a plus de lieu, ni de bâtiment dur, ni de campement?
Eh bien, on en est à le maire qui nous dit que qu'il voudrait bien pouvoir ouvrir un lieu pour ces pauvres personnes, mais que vraiment il peut pas faire grand chose, c'est pas de son ressort. Voilà, donc des paroles en l'air et pour l'instant nous on n'a plus d'endroit où apporter au moins un peu de soutien aux gens. Voilà.
Oui, donc, du coup pour rappel le lieu c'était la paroissiale de l'église de Clavière.
C'est ça.
Et donc outre le fait que des gens qui cherchaient à traverser la frontière pouvaient s'y reposer avant de passer, c'était aussi un lieu de rassemblement des luttes contre les frontières. Donc maintenant, il n'y a plus de point fixe pour rassembler toutes ces luttes, mais il me semble qu'il y a eu un appel qui a tourné à ce que ces luttes ne cessent pas et peut-être à continuer à converger vers Clavière. Est-ce que c'est le cas ?
Est-ce qu'on appelle ces luttes à continuer à converger vers Clavière ? C'est la question.
L'information, cet appel date de avant la deuxième expulsion du campement.
Eh bien, voilà, pour l'instant, on n'a plus du tout de lieu fixe pour se retrouver. Pour l'instant, il y aura de nouveau des appels à soutien, à rassemblement, ça c'est sûr, puisque de toute façon, l'hiver arrive, il va y avoir de la neige, il va y avoir de nouveau des gens qui vont faire des maraudes, que ce soit voilà, plusieurs personnes qui se disent ensemble, on va aller faire des maraudes dans la montagne pour que les gens ne crèvent pas de froid, quoi, littéralement. Soit des personnes qui vont faire ça toutes seules dans leur coin. Voilà, de toute façon, en fait, toute l'aide et le soutien qui est organisé là depuis plusieurs organisé ou pas d'ailleurs depuis plusieurs hivers, il va continuer. Oui. Et pour l'instant, on en est surtout à se demander comment essayer de trouver les mots en fait pour dire ce qu'on a vécu ces derniers mois chez Jésus. Pour dire ce qui s'est passé là ces derniers jours là, donc il y a des mots, il y a des appels qui vont venir.
Et là justement, est-ce qu'il y a toujours du monde qui arrivait à Clavière et du coup comment ça se passe la prise en charge et comment on peut donner des coups de main pour ça parce que là j'imagine que c'est pas parce que le squat s'est fait expulser qu'il y a plus personne qui arrive à la frontière.
Oui, voilà, c'est exactement ce que les autorités ont du mal à comprendre, c'est qu'en fermant le squat, ils n'arrêtent pas le flux migratoire. Et pour l'instant, cette personne-là, la police prévoit de les renvoyer vers Oulx, qui est la grosse ville la plus proche côté italien. Voilà, sachant que il y a un lieu d'accueil qui a été mis en place de 15 places à Oulx. Nous, on ne sait pas vraiment ce que ça donne, ce lieu d'accueil. En fait, on n'a pas pu y avoir accès, aller voir, discuter avec les gens qui sont là-bas. De toute façon, il y a très peu de place. C'est à 20 km de la frontière. Donc, en fait, enfin, voilà. Et pour l'instant, ben, malheureusement, ce soir, enfin, le premier soir depuis plusieurs mois, en fait, ben, il n'y aura personne pour, voilà, pour accueillir les gens qui...
Alors, il y a quand même une urgence à se réorganiser par rapport à ce sujet-là, d'autant plus que chez Jésus, c'était aussi une base pour être témoin des violences policières envers les migrants qui se font un peu dans le secret des montagnes autrement. Et il me semble qu'il y a un site internet qui s'appelle Vallée en lutte qui tient un peu informé. Est-ce que tu sais si il y a un nouvel appel à converger, s'il y aura des informations sur ce site?
Eh ben, je pense qu'il y aura des informations. On essaie de les diffuser au maximum. En fait, on est plein d'endroits différents à venir, à être venu à Clavière. Donc il y avait les informations d'aujourd'hui. Normalement, sont passées sur Rébellion. Il y a le site Vallée en lutte. Il y a le site de passamontagna.info aussi qui donnait certaines informations sur la frontière en italien et certains textes traduits en français, si je ne me trompe pas. Il y a le Facebook de chez Jésus que je ne suis jamais allée voir, mais sur lequel il y a les vidéos, les communiqués, les vidéos de l'expulsion.
D'accord.
Ces choses-là.
Est-ce que les identitaires traînent toujours dans le coin ou...
Et eh ben, à notre connaissance, non. Non. Il y a quelques mois, il y a eu une descente d'identitaire chez Jésus, où moi j'étais pas, donc j'aurais du mal à raconter dans le détail. Mais voilà, il n'y a pas d'histoire ces derniers temps, à ce que je sache.
Ok. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose?
Moi aussi, j'ai une question.
Peut-être, on a du mal à l'accepter, mais peut-être ce soir, on va essayer de se reposer. Tous les camarades vont essayer de se reposer. Et voilà, on diffusera au maximum les informations pour les prochains rassemblements, sur comment donner de l'aide. Ouais. Ce qui est important, c'est de continuer, que toutes les personnes qui reçoivent ces informations-là, elles les diffusent aussi. Et que de se dire aussi que la frontière, elle n'est pas que à Clavière ou elle n'est pas que au col de l'Échelle. En fait, elle est à beaucoup d'endroits. Elle est dans les gares, elle est dans les centres de rétention. Il y en a à Lyon, il y en a à Grenoble. Voilà, et que ça se fait, enfin, et que ce qu'on a essayé de construire chez Jésus aussi, c'était de pas juste faire de l'humanitaire et s'apitoyer sur le sort des gens, mais sans même leur adresser la parole. En fait, que ces personnes-là, il faut aller leur parler et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dans tout ça, en fait, comment l'État il a sa place, comment les violences policières ont leur place, et qu'est-ce que ces personnes-là elles vivent, quoi.
Eh ben, n'hésitez pas à communiquer sur toute nouvelle initiative. Je pense qu'on va être nombreux à suivre sur Vallée en lutte, Rébellion et le site de Passamontagna dont tu nous parlais. Peut-être une dernière question ?
Ouais, peut-être une dernière question. C'est juste que j'imagine que vous êtes de côté de la France. Je pense bien à la frontière, n'est-ce pas ?
Est-ce que je peux répéter ? Excuse-moi, je t'entends. Je n'ai pas entendu.
Je disais plutôt, je pense que vous êtes du côté de la France, au niveau de la frontière. Je me demandais, est-ce que vous êtes en contact aussi avec d'autres personnes qui font pareil du côté italien? Si oui, est-ce que ce serait pas une bonne stratégie pour communiquer avec eux, notamment de converser, je ne sais pas, les efforts
De converger avec les personnes italiennes? Ouais, mais c'est même totalement ce qui s'est passé... qui s'est passé à Clavière depuis plusieurs mois. Enfin, c'est ça qui est super, c'est que ça a été vraiment un point entre les deux côtés de la frontière. Et aussi, même si on partage globalement une culture de lutte et des façons de faire qui sont communes, ben c'est quand même pas exactement les mêmes manières de faire. Donc on s'est aussi beaucoup apporté. Et ça, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans les prochains temps aussi, c'est de pas perdre le lien, même si le lieu à Clavière, il n'existe plus. Ben, en fait, on s'est rencontrés, on a envie de continuer à se retrouver. Et donc, voilà. Ce lien-là, on espère, va continuer à exister avec les personnes côté italien.
Oui, il y a d'ailleurs eu de nombreuses initiatives ces derniers temps entre la France et l'Italie, du coup, enfin entre des militants français et italiens pour essayer d'avoir une réponse globale à cette question-là et de justement de nous péter aussi un peu ces frontières-là, quoi. Et il en est ressorti des choses assez intéressantes, notamment les marches Passa Montagna et voilà. Ouais. Et mais merci beaucoup de nous avoir répondu.
Ben, merci à vous.
Bonne soirée.
Ouais, bon courage à vous et puis à très vite.
Merci. Ciao, bonne soirée.
Au revoir.
On fait un agenda ?
Eh mais tout à fait. Alors, on a une première info déjà. On finira d'ailleurs peut-être ce Canyon Info sur un son révolutionnaire brésilien. Et justement, samedi 20 octobre, donc à 15h, il y a un rassemblement contre l'arrivée du fascisme au Brésil qui est appelé Place des Terreaux. Donc, on invite tout le monde à y aller.
On rappelle que demain, à 14h, donc, il y a le rassemblement de soutien devant la Grande Poste. Un postier menacé de licenciement demain à 14h donc.
Et est-ce qu'il y a d'autres choses?
Si vous le voulez, vous pouvez aller mercredi à 19h30 à la présentation de la revue Z sur la Guyane. C'est pour ce numéro, c'est à l'Amicale.
Très belle revue.
Très beau bar.
Ah oui, jeudi aussi. Jeudi aussi, un grand rassemblement à 16h. Écoutez, s'il vous plaît, c'est pas de la merde.
Pardon.
Grand rassemblement à 16h pour. C'est une journée de mobilisation nationale du français langue étrangère. Alors, ce sont des associations lyonnaises qui réclament la mise en place de cours de français accessibles à tous, sans distinction de situation administrative, pour répondre à ce besoin, parce qu'il y a énormément de gens à Lyon qui sont face à, qui doivent faire des démarches administratives, entre autres, ou juste construire une vie, et qui ne parlent pas français et à qui on ne propose rien. Voilà.
Voilà, donc.
Et il me semblait qu'il y avait d'autres choses samedi, mais.
On peut aller jusqu'à samedi. Stage d'autodéfense pour femmes.
Oui, bah, par exemple.
À 10h, à la MJC Jean Massé. Oh, oui, il y a beaucoup de choses, mais peut-être que.
Peut-être qu'on peut inviter.
T'as le temps, là.
Un sujet débat, après-midi débat, à la librairie La Griffe, à 15h, sur Vieillir en anarchie, si ça vous intéresse. Et. Mais il faudra choisir parce qu'à la même heure, il y a manifestation sur la place Bellecour pour justice pour Mehdi, tué par la police.
Alors ça, c'est pour rappel, hein, c'est en 2014, hein, je crois qu'il a été 2015, il a été tué par la police et du coup, il y a un rassemblement appelé par sa famille puisque les policiers qui sont responsables de sa mort n'ont toujours pas été mis en cause judiciairement et c'est ce que veut la famille.
Voilà.
Donc, et on termine cette émission donc par une petite chansonnette.
Tout à fait, pour soutenir les copains brésiliens qui sont quand même sacrément dans la merde, on peut le dire. Et on invite tout le monde à venir le samedi au rassemblement de soutien à 15h, place des Terreaux.